Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC. Approuvez-vous les nouvelles méthodes des écolos? Dans la nuit de mercredi à jeudi, des dégonfleurs de pneus ont encore frappé dans le Nord et en Gironde. Ces membres d'un collectif écologiste s'en prennent uniquement aux SUV en dénonçant l'achat de ces gros véhicules. Une méthode radicale et lâche pour l'ancien policier du raid, Bruno Pomard.
Ces forces soient obscures, là, seraient mieux à faire des propositions, de véritables propositions avec des associations, des choses concrètes.
Bah c'est ce qu'ils font. En général, ils sont membres d'associations, de collectifs.
Non, mais je sais que t'es vachement écouté quand on fait de la proposition.
Oui, je sais que t'es d'accord avec.
Immédiatement, tout le monde craque.
Moi, j'en ai un de 4x4. Je vais te dire, il est moins polluant que leurs bagnoles, les bagnoles avec lesquelles ils roulent.
Ça,
les 4x4 modernes,
en général, ils n'ont pas de bagnole.
Tu parles, pas évident. C'est des lâches, c'est des lâches. Il y a pas d'autre mot.
C'est des petits cons, on peut le dire.
Oui, c'est des lâches, c'est des lâches.
Voilà, Bruno Pollard qui n'a pas été très tendre avec ces nouvelles méthodes écolo. Et en tant qu'écolo, justement, Mathilde Emmer, est-ce que vous approuvez ces méthodes ou vous trouvez ça un peu puéril?
C'est pas les miennes, mais je les comprends.
D'accord.
Moi, je fais partie de ces écolos, j'ai 32 ans là. Mmh. J'ai marché pour le climat, j'ai signé un nombre de pétitions incroyables, j'ai écrit un nombre de tribunes monstrueuses.
Et ça servait à rien?
J'ai même participé à pousser la Convention citoyenne pour le climat.
Ah oui.
Et il n'y a rien derrière. Alors qu'il y a eu 150 citoyens de tous bords politiques, des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des RN, LFI, macronistes. Et ça ne sert à rien. C'est-à-dire que tous les... On a même attaqué en justice aussi l'État, qui a été condamné par sa propre justice pour inaction climatique. Et ça ne bouge pas. Et donc je comprends tous ceux qui sont aujourd'hui en éco-anxiété et qui se disent... mais on ne m'écoute pas quand je suis dans quelque chose qui reste dans l'ordre légal habituel de la manifestation, donc je passe par d'autres voies.
D'accord.
Ça me rend triste qu'on en arrive là. Je pense que ça montre encore une fois une faille de notre démocratie. On devrait avancer plus vite. Et d'ailleurs, la majorité des citoyens, encore une fois, sont prêts. Et on le voit, sondage après sondage, élection après élection, les enjeux écologiques qui sont en train de monter. Où je pense qu'on est tous inquiets. La question, c'est comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on avance là-dessus? Et en vrai, on parle beaucoup des retraites là aujourd'hui en disant c'est une réforme courageuse. Moi, je trouve que si Emmanuel Macron devait avoir du courage, c'est pas une réforme d'apothicaire sur les retraites pour 17 milliards par an. C'est une vraie ambition sur la question climatique où on intègre les personnes qui aujourd'hui sont en bagnole et qui veulent pouvoir aller au boulot demain, les personnes qui peuvent pas se permettre d'être dans une transition écologique du jour au lendemain hyper radicale. Comment est-ce qu'on les accompagne à ça? Il ne l'a pas fait suite à la convention. Et j'ai envie de dire, on est presque en train de payer des pots cassés parce qu'on voit sur les prix de l'énergie, la rénovation thermique qui est pas faite. Et donc, tous ces enjeux-là, moi, je regrette qu'on en arrive là, mais je comprends les jeunes qui font ça.
C'est contre-productif, quand même, Perico Legas.
Alors, je pense aux citoyens conscients de l'enjeu environnemental qui s'achètent un SUV hybride, une fortune, pour économiser, à qui on dégonfle le pneu, il doit être vachement content, celui-là, tu vois.
Mais il faut lui dire aussi que le SUV hybride, c'est pas une bonne chose.
C'est-à-dire
que le
SUV, une aberration écologique.
Oui. C'est une aberration écologique. C'est tellement lourd. En fait, tous les véhicules lourds, que ce soit électrique ou pas, c'est des aberrations écologiques.
Alors, pourvu qu'ils se dégonflent pas.
Il faudrait le dire aux concessionnaires, parce que c'est pas tout à fait le discours.
Les concessionnaires sont pas.
Il faudrait des réglementations qui permettent, ce qui est interdit aux concessionnaires, de faire du greenwashing.
Contrairement
à ce que bon, c'est-à-dire que nos amis, ils disent, je vais être vertueux, tu vois.
Ah oui, mais les concessionnaires vont te le dire aussi, hein. Il y a pas de souci.
Ah oui, des gens de bonne foi achètent ça. Je pense que les gens sont perdus sur ce qu'il faut faire.
Et
c'est le moment où l'État doit réglementer.
Il y a des SUV essence qui consomment très peu. Je suis en train justement de me pencher là-dessus pour voir ce qu'il en est. Voilà, je pense pas que ce soit les cibles prioritaires, pour eux qu'ils se dégonflent pas eux-mêmes. Ça me fait penser à la scène de la grande vadrouille où l'aviateur anglais perce le pneu de son collègue qui est en train d'essayer de partir. Vous voyez, c'est...
On va avoir des références tout du long.
C'est le fil rouge de l'émission.
C'est plutôt des actions auxquelles vous êtes favorable ou pas, Emmanuel Dancourt, ou ça vous agace en fait?
En fait, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'il y a ça, il y a balancer de la soupe sur des Van Gogh, il y a s'enchaîner un filet de Roland Garros. Enfin, je comprends le défaitisme aujourd'hui des militants. Franchement, je le comprends. Et pour autant, je me dis mince quoi, quelle image ça peut donner des écolos à des gens qui sont déjà contre les écolos, et je me dis dans l'image publique, c'est peut-être pas...
Contre les écolos, quand même.
Oh, bah, oh, ils ont quand même des résistants.
Une vraie sympathie pour la population.
On dit pas l'écologie, on parle des écolos un peu militants.
Ah oui, des militants. Ah oui, d'accord. Okay.
Moi, je comprends qu'ils baissent les bras et qu'ils disent il y a plus que ça quoi, pour que la presse parle de nous, pour qu'on relaie nos combats. Après, évidemment qu'on peut leur opposer plein de trucs en disant ouais, ben moi mes pneus sont crevés et puis ma femme devait accoucher, aller à l'hôpital machin. Et c'est vrai, ça n'a pas dû arriver tonnes de fois, mais c'est vrai. Mais je comprends qu'on en arrive à des choses un peu extrêmes, un peu radicales, quand vraiment on n'est plus entendu. En plus, tu dis que le gouvernement a perdu contre sa propre justice et puis il se passe rien derrière. Enfin là, à partir de ce moment-là, tu dis bon, il y a de quoi démissionner, quoi.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il accentuer la protection animale? Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement d'une brigade spéciale pour lutter contre la maltraitance animale. Une brigade qui compte 15 enquêteurs pour toute la France. Un nombre bien insuffisant pour Hélène Thuy, la cofondatrice du parti animaliste.
C'est très bien d'avoir une brigade, mais ça suffit pas de constater des infractions et de les recueillir. Il faut ensuite les poursuivre. Et c'est pour ça que nous, on demande à ce que soient créés en plus des parquets spécialisés au sein des juridictions. On le voit de par ma casquette d'avocat qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. On a beaucoup encore et beaucoup trop de classements sans suite. Et donc, en fait, finalement, ça ne sert à rien. C'est pas dissuasif.
Pas mal, hein. Cette nouvelle brigade, c'est une bonne chose, Perico, ou effectivement, ils sont pas assez nombreux?
Alors, ils sont pas assez nombreux, mais c'est un message, c'est un début. C'est formidable pour la première fois. Voilà, l'État officiellement prend en cause les animaux. Il y a des horreurs épouvantables. Et voilà, le pays comme la France se devait d'envoyer ce message. Voilà.
Oui, mais c'est quand même une avancée. Enfin, là, je veux bien entendre Hélène Thuy qui se pleure. Enfin, au moins, c'est un début.
Bah, bien
après,
sûr.
Mais peut-être l'année prochaine, t'en auras 30 et puis 100.
Ça incitera les gens à aller dénoncer les choses, surtout.
Oui, et ça, heureusement, ça commence à se faire. Et puis, alors, vous avez quand même des crétins qui balancent des images d'eux sur les réseaux sociaux en train de maltraiter leur animal. Alors là, il faut quand même être vraiment
débile. Il y a pas cette mesure-là. Hein. Il y a cette division spécialisée. Il y a aussi annonce faite ce matin. Il y a à travers toutes les brigades de France, de gendarmerie et dans les commissariats, il y aura 4000 référents qui vont des policiers qui vont être sensibilisés à la protection de la cause animale et donc qui auront une formation spécifique à ce sujet. Et normalement, dans pas mal de gendarmeries de France et de commissariats, il y aura un référent, donc un policier qui sera spécialement formé, et quand il y a ce type d'affaire qui se présente, lui aura en tout cas des réflexes différents.
Ça veut dire que dans mon village, où on a eu des cas de maltraitance animale sur des vaches qui n'étaient pas assez nourries, ça a été porté en justice et puis ça n'a pas pu aboutir. Donc là, désormais, on ira vers un référent. C'est ça, qui sera spécialisé, comprendra ce que c'est que la maltraitance animale et qui va venir accompagner dans la procédure.
Dans ton village, si tu vas à la brigade de gendarmerie parce que tu as été témoin d'une maltraitance animale, c'est compliqué, faut comprendre, pour un gendarme qui ne connaît pas spécifiquement le sujet, de savoir si c'est important ou pas, si c'est grave ou pas. J'ai vu mon voisin frapper ses vaches. Bon, enfin, le gendarme, on imagine qu'il a bien d'autres choses à faire. Je dis pas qu'il va le prendre à la légère, mais si il y a un référent de la brigade qui appelle son collègue et que lui sait que ça tombe sous le coup de tel article, que c'est pareil, il y aura des réactions différentes.
Non mais c'est très bien, il faudrait peut-être aussi finir leur formation sur l'accueil des femmes.
Mais c'est ça, l'accueil des violences sexistes et sexuelles.
Je n'osais pas faire la comparaison, mais c'est vrai.
Enfin, ça m'étonne un peu.
Mais c'est vrai qu'il y a des référents normalement.
Sur l'accueil des femmes et une formation sur l'accueil des gens qui accueillent les animaux. Bon, je veux bien, mais enfin, à un moment,
il y a peut-être des priorités. C'est ça que tu veux dire.
Il y a quand même un truc qui.
Oui, et puis après, moi, je crache pas dans la soupe. Je pense que les avancées, il faut toujours les prendre. Néanmoins, je pense que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Tu vois, c'est. Il y a un moment, si on regarde pas en face le système industriel, l'élevage intensif. Bon,
mais ça ne peut pas y porter plainte au commissariat contre l'élevage intensif.
Oui, mais c'est quand même ça qui fait de la maltraitance animale de masse.
Oui, on n'est pas d'accord. On est bien d'accord.
Donc il y a un sujet où bon, c'est bien, ça va dans le bon sens. Je suis assez d'accord avec toi que, à mon avis, en termes de priorité sur la formation de la police, on en a d'autres. Néanmoins, je pense que il y a un moment, faut arrêter de faire diversion des vrais gros sujets sur les questions écologiques qu'on n'apprend pas, quoi. Là, il y a du courage à prendre. Ce serait bien qu'il y ait des politiques qui aient du courage là-dessus.
Les GG, ce matin sur RMC, sommes-nous des ignares en économistes? En tout cas, ce que pense l'homme le plus riche de France, Bernard Arnault, le PDG du groupe LVMH, a répondu hier aux critiques régulières qui lui sont faites, notamment par l'ONG Oxfam, en constatant que ces personnes qui critiquent les milliardaires ne connaissent pas bien leur sujet. Des propos que partage l'éducateur des GG, Étienne Lébigue.
Écoute, on connaît rien à l'économie, mais on connaît rien à la sociologie, on connaît rien à l'anthropologie, on connaît rien à rien. C'est-à-dire qu'en réalité, la compréhension fine de phénomènes complexes demande une véritable étude.
Il a raison.
Il a raison. Donc en économie, moi je connais ce que j'ai lu dans le journal, ce qui est peanuts, ce qui est 1% de la connaissance de l'économie. Et avec ça, j'essaye d'analyser des phénomènes économiques qui sont internationaux, que même les spécialistes en économie se ramasse du mal sur l'analyse. Donc oui, il a raison, bien sûr.
Est-ce qu'on est toujours démagos sur ce sujet des milliardaires, finalement, de Perico Legas?
La question est, il connaît bien Emmanuel Macron qui prenne le ministère de l'Économie et des Finances, qui remplace M.
Bernard Arnault, je pense qu'il a
oui.
À mon avis, il a d'autres chefs.
Et qu'il obtienne pour la France les marges bénéficiaires qu'il obtient pour son groupe de façon extrêmement pertinente, intelligente et voilà, courageuse. C'est un homme qui prend des risques. Évidemment, quand on est à ce niveau-là de fortune, bien sûr que l'on peut toujours dire, vous êtes nul en économie, regardez, moi, ma réussite. Alors, est-ce qu'il a toujours utilisé des moyens qui correspondaient à ce que notre sociologie, la fracture sociale correspondait? Il a créé des emplois, hein, c'est pour ça, on peut pas dénigrer.
Un peu, ouais.
Voilà, il paye des impôts et il fait des donations gigantesques à des œuvres. Soyons très objectifs là-dessus. Oui. Voilà. Maintenant, alors, vu sa place, oui, et puis un grand militaire va dire vous êtes nul en stratégie militaire, et puis voilà, et puis un grand prof de médecine va me dire t'es nul en médecine. Oui. Bah oui, je ne suis pas médecin, effectivement.
En fait, ce qu'il regrette, c'est que tout le monde tape sur les milliardaires sans faire la différence, certainement, entre à la fois le patrimoine industriel
c'est-à-dire
et
qu'il
le.
Devient une cible. Voilà. Il en a marre qu'on lui tape dessus. Il est devenu l'homme le plus riche du monde. Bon, c'est Cocorico, n'est-ce
pas? Une demi-heure.
Voilà. Peu importe, ça l'a été à un moment donné.
Il a cédé rapidement sa place.
Voilà, non, et non, c'est vrai qu'on est, nouveau, on est dans une époque où, quand il a Mathilde Himmer en face de lui, il a mauvaise conscience, voilà. Ça c'est clair.
Non, mais qu'il soit plus grosse fortune du monde ou dixième, en vérité, ça ne change pas grand-chose.
Voilà.
Mathilde Himmer.
Non, mais je crois, sur ce qu'il a dit, qu'on n'y connaît rien à l'économie, c'est vrai. Je pense que sinon, on serait tous vent debout sur ce qui se passe aujourd'hui sur l'économie et surtout dans le monde de la finance, où il y a quand même un niveau de spéculation qui est énorme. Moi, je voudrais juste rappeler un chiffre. 80% des milliardaires sont des héritiers. Donc moi, je veux bien entendre le patrimoine industriel, des gens qui créent des emplois, qui sont des entrepreneurs. Il y en a, 20%. Il y a un moment où il faut aussi regarder pourquoi est-ce que ce sont sans arrêt des gens ultra riches, ont leur argent par héritage. On regarde la famille de Bernard Arnault, il est en train de placer son fils, oui. Sa fille, à des postes clés.
Oui, ils ont mais fait des études, quand même.
Enfin, d'accord.
Mais ils ont eu les moyens.
Ils ont eu les moyens de faire des études.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas méritants, ça veut dire.
D'accord, mais c'est pas pour ça qu'ils sont plus méritants, qu'ils méritent cette place, parce que leur papa est celui qui est à la tête de cette entreprise.
Oui, mais t'as encore le droit de choisir qui tu veux pour mettre à la tête de tes entreprises.
Oui, mais on est plus au Moyen-Âge, en fait. Moi, je trouve que ça, c'est un réflexe moyenâgeux.
Si t'as une entreprise...
Parce que tu as du sang de telle famille.
Non.
Tu es plus ou moins riche et tu as le droit à telle ou telle
poste. Mathilde, si t'as une entreprise, tu montes ton entreprise. Là, t'es charpentière. Tu montes ta propre entreprise et ça marche du tonnerre et c'est tout ce que je te souhaite.
Oui.
Peut-être qu'à un moment, déjà, tu vas choisir avec qui t'as envie de bosser.
Oui.
On est d'accord. Peut-être que si t'as des enfants, dans 30 ans, tu vas avoir envie, parce que tes enfants ont la même passion que toi, de leur transmettre ton entreprise. Je dis pas que tu vas être milliardaire, c'est pas ça le problème.
Mais
finalement, c'est les mêmes.
Mais la plupart.
C'est pas parce qu'ils sont milliardaires qu'ils ont pas les mêmes souhaits que des gens qui ne le sont pas.
Il y a un certain nombre de boîtes d'artisans avec qui je bosse qui sont des boîtes familiales par ailleurs. Je le comprends très bien, simplement. Ces petits patrons-là, ils payent beaucoup plus d'impôts que les milliardaires, que LVMH, que Total, que ces grands groupes. Le sujet, il est là. C'est-à-dire que, okay, moi, je taperai pas sur Bernard Arnault si les entreprises qu'il pilote payaient les impôts qu'il doit à l'État français. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un lobbying monstrueux de la part de ces gros acteurs du CAC 40 qui font que eux payent très peu d'impôts par rapport aux petites boîtes et aux citoyens lambda, et c'est nous qui payons. Moi, j'en ai marre de payer pour des actionnaires qui, pour moi, sont les vrais assistés de la société
française.
Oui,
mais là, tu dois taper sur le gouvernement, pas sur les milliardaires, parce que si le gouvernement avait mis en place la taxe sur les super-profits, il ne pourrait pas aller contre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas aux milliardaires de dire, je vais filer 2% en plus. C'est au gouvernement aussi
d'instaurer des lois.
Il y a eu des gouvernements de gauche qui n'ont quasiment pas touché à ça.
Oui,
c'est un problème.
Mais je ne suis pas en train de dire, Hollande, je l'ai dénoncé plus que de raison. Il y a un moment, je dis juste que ça doit changer. Et ça, pour le coup, il y a un véritable consensus dans la société en France aujourd'hui. Et c'est assez clair, quoi.
Emmanuel Dancourt.
Oui, j'ai écouté le débat ce matin sur les GG. Mmh. C'est vrai qu'on pouvait penser que Bernard Arnault était un peu condescendant quand il le disait. Faut remettre juste ça dans l'interview. Mais cela dit, à son corps défendant, ça reste malgré tout condescendant parce qu'il bénéficie. Je vais pas reprendre tout ce que tu as dit, Mathilde, mais de tout ce qu'il bénéficie, il a pu faire des études. Et puis nous, quand on commente l'économie, nous qui ne sommes pas des spécialistes, on le commente par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire avec nos budgets à nous, avec nos réalités professionnelles à nous. Et évidemment qu'on ne comprend pas les grandes lois de la finance, on n'est pas là-dedans, et puis ça nous énerve, il y a plein de trucs qu'on
ne
comprend pas.
Et ça les arrange bien qu'on ne comprenne pas.
Certainement. Mais il a raison. Mais l'état de nos vies est comme ça. Effectivement, on est spécialistes d'un ou deux trucs.
Oui.
Et pas plus que ça, donc il a raison, on peut pas dire qu'il a pas raison. Et pour autant, c'est complètement, il fait partie des privilégiés, voilà.
qu'il est. Oui, mais ça, il s'en cache pas. Ça... Oui. Il dirait qu'il n'est pas privilégié. Je pense que ça n'irait pas, tu vois. Donc ça, il l'a pas dit.
Non.
Il est peut-être venu dans quelque chose qu'on ne sait pas. Il est peut-être venu dans la cuisine, je sais pas. Mais
peut-être.
Mais c'est vrai que c'est dur pour les gens d'entendre
de penser avec des gens qui sont bons en cuisine.
Oui. Je pense qu'il ne sait pas jouer au foot.
Peut-être.
Ça, il ne peut pas compenser.
Non, mais ce qui est dur pour les gens, c'est d'entendre que ces gens-là ne sont pas riches parce qu'en fait, tout est dans des actions bloquées, machin. Donc en fait, ils n'ont pas l'argent, machin. Ils sont quand même deuxième, troisième, sixième fortune de France ou mondiale.
Je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes, c'est que c'est tellement plus facile de taper sur son voisin qu'on connaît que de taper sur des gens comme Bernard Arnault, si haut dans son chapeau.
RMC Football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.